Alexandre Fiévé, donc seul contre tous, la Coupe du Monde 98. L'histoire d'une équipe, c'est publié aux éditions Amphora. C'est une compilation de toute la presse qui a suivi l'épopée des Bleus. On sait que ce n'était pas gagné d'avance, mais ça, on y reviendra. Comment vous avez fait pour compiler et retrouver tous ces documents?
Je suis parti du calendrier des matchs de l'équipe de France sur les 4 ans, 4 ans et demi qui précèdent la Coupe du Monde 98. Et à partir de ce calendrier, on a la date donc des différents matchs de l'équipe de France. Et on sait que globalement, les journaux et même la télévision, elle commence à parler d'un match de l'équipe de France 2-3 jours avant et elle en parle 2-3 jours après le match. Donc une fois que j'avais ce calendrier en tête, j'ai pu aller notamment à la bibliothèque François Mitterrand et récupérer les archives, Journal d'équipe, Libération, pas Le Monde, parce que Le Monde, en prenant l'abonnement en ligne, il nous donnait la possibilité d'accéder aux archives. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et j'ai acheté aussi toute la collection des France Football de 93 jusqu'à 98. Donc j'ai une pile à la maison de journaux, de magazines. Voilà. Globalement, une fois qu'on a le calendrier des matchs d'équipe de France, c'est assez facile.
Alors revenons à la jeunesse de ces champions du monde, 4 ans avant. Comment elle se situe, cette équipe?
C'est une équipe en reconstruction parce que l'équipe de France de Gérard Rouillet échoue dans la qualification à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, alors que justement la qualification lui était promise. Tous les médias annonçaient l'équipe de France à la Coupe du Monde 94, puisqu'il lui restait deux matchs à jouer, deux matchs au Parc des Princes, un contre Israël, l'autre contre la Bulgarie. Il lui fallait prendre un point et elle en prend zéro. Donc Aimé Jacquet, quand il reprend cette équipe de France, elle est en construction. L'état des troupes n'est pas très bon, il le dit lui-même. Il faut remobiliser les joueurs qui ont vraiment touché le fond avec cette non-qualification. Certains joueurs comme Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc ou Franck Sauzet ont mis un terme à leur carrière internationale. Donc voilà, c'est un chantier assez compliqué pour Aimé Jacquet.
Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe facilement? Est-ce qu'il trouve justement parmi les joueurs potentiels ce qu'il souhaite? Et est-ce que ça commence à fonctionner ou est-ce que c'est difficile au départ?
C'est un petit peu difficile au départ. C'est la qualification, donc c'est les matchs qualificatifs pour l'Euro 96. L'Euro 96 qui est un objectif parce que la Coupe du Monde en 98 en France est 2 ans après cet Euro. Donc dans l'esprit des dirigeants du football français, il faut vraiment que l'équipe de France fasse une compétition avant cette Coupe du Monde qui est en France pour bien figurer. Et donc c'est vraiment, la qualification est vraiment un objectif. Et c'est vrai que les premiers matchs sont un peu compliqués. La France fait beaucoup de matchs nuls. Et Aimé Jacquet va mettre, on va dire, à peu près un an et demi avant de véritablement trouver son schéma de jeu et les bons joueurs susceptibles de bien figurer dans cette animation à la fois défensive et offensive. Donc il trouve véritablement son système de jeu en mars 1995, sachant qu'il est entré en fonction en décembre 1993.
Alors il y a des joueurs potentiels, j'allais dire, qui vont se révéler plus tard. Je pense à Zinedine Zidane. Et parce qu'il y a une phrase de Gérard Hégnès dans le livre qu'il a donc cité, en disant bon, ok, on nous a promis un nouveau Platini, mais c'est un Platini en devenir. Hein, c'est pas le joueur qu'on attendait. Ce sera pas celui avec lequel il va falloir compter. C'est un peu ça ce qu'il exprime derrière tout ça. Finalement, ça va lui donner tort au final, mais.
Je ne sais pas si ça lui donne tort. De mémoire, il fait cette observation après l'Euro 96. Donc l'équipe de France va quand même jusqu'en demi-finale, ce qui était quand même assez rare à l'époque, hein, une équipe de France qui va aussi loin dans une compétition internationale. Les médias sont malgré tout extrêmement critiques à l'égard de l'équipe de France parce qu'elle se fait éliminer au tir au but contre la République tchèque, donc ils considèrent ça comme étant une faute professionnelle, oubliant tout le parcours qui a été réalisé en amont. Et c'est vrai que concernant, et pour revenir à Zinedine Zidane, il n'a pas fait un Euro 96 extraordinaire. Il est blessé, il est physiquement, il n'est pas donc, il est pas au mieux. Et c'est vrai que Zinedine Zidane, on l'avait peut-être mis un petit peu haut très tôt. Et Gérard Hégnès se dit bon ben voilà, si c'est lui le nouveau Platini, il n'a pas encore démontré qu'il l'était. Et il mettra encore un petit peu de temps à le démontrer. Après l'Euro 96, il part en Italie à la Juventus de Turin. Il va commencer à avoir un autre bagage. Et même d'ailleurs pendant la Coupe du Monde 98, hein, Zinedine Zidane n'y fait pas une grande Coupe du Monde. Heureusement qu'il marque les deux buts en finale, et c'est ce qui va rester. Mais Zinedine Zidane ne fait pas une grande Coupe du Monde.
Quand on lit la presse à travers ce recueil que vous avez donc aux éditions Amphora, hein, Seul contre tous, on sent bien qu'elle est seule contre tous, parce que la presse, elle taille. Elle taille les joueurs, elle taille Aimé Jacquet, et violemment même.
Oui, donc non seulement la presse est assez critique à l'égard de l'équipe de France, et du coup l'opinion publique n'est pas derrière son équipe. Les deux réalités sont liées. C'est parce que justement les médias, et notamment une presse en particulier, ont tapé très fort sur l'équipe de France et sur Aimé Jacquet, qui fait que l'opinion publique n'était pas derrière. Et c'est vrai qu'en début de Coupe du Monde, on peut même sentir que le soutien populaire est relatif. Il faut vraiment attendre que l'équipe de France gagne 3-4 matchs. C'est notamment après le match contre le Paraguay en 8e de finale et la qualification sur le but en or de Laurent Blanc que l'on sent qu'il se passe quelque chose et que l'élan populaire est sur le point de se manifester. Donc oui, quand l'équipe de France rentre dans cette Coupe du Monde, le soutien du public est relatif et c'est lié probablement au traitement médiatique dont a fait l'objet l'équipe de France.
Alors Aimé Jacquet est arrivé pour remonter une équipe, il se fait flinguer par la presse, effectivement, vous le dites, le public n'est pas derrière lui. Qu'est-ce qui le fait tenir ?
Alors déjà, il n'arrive pas comme un sauveur. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a peut-être oublié, il est arrivé comme sélectionneur intérimaire. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un contexte en fin de l'année 93 qui est compliqué, c'est l'affaire VAOM, c'est l'affaire de Furiani avec les tribunes qui se sont effondrées, c'est la non-qualification de l'équipe de France, la Coupe du Monde, on est vraiment au plus bas. Donc il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place au niveau des instances dirigeantes pour essayer de redorer le blason du football français. Et le problème qu'on a, c'est que à la fin de l'année 93, des sélectionneurs, il pourrait y en avoir, on a des entraîneurs de qualité, seulement ces entraîneurs-là, ils sont en poste dans différents clubs du championnat de France. On pense notamment à Jean Tigana, on pense à Alain Giresse, à Luis Fernandez. Et Claude Simonnet, à l'époque, ne souhaite pas justement fragiliser un de ses clubs alors que le championnat est en cours, donc ne souhaite pas débaucher un entraîneur potentiel de l'équipe de France. Et finalement, ils se disent, bon ben voilà, comme on est dans une période un petit peu intérimaire, le président de la fédération n'est pas encore désigné, puisque Jean Fournet-Fayard venait de démissionner, et bien on a une petite période d'intérimaire de 6 mois, et ben pourquoi on ne donnerait pas les clés de l'équipe de France à l'entraîneur adjoint de Gérard Rouillet? Et c'est là qu'ils disent, bon ben voilà, on va désigner à titre intérimaire Aimé Jacquet. Mais comme durant cette période intérimaire de 6-7 mois, Aimé Jacquet va gagner les matchs amicaux que l'équipe de France joue, il va être maintenu. Il va être maintenu et au final, cet entraîneur intérimaire va rester 4 ans et demi en poste.
Et donc, je reviens à ma question, c'est qu'est-ce qui va le faire tenir pendant qu'il se fait massacrer de partout et qu'il se... Il y a un moment, je pense que humainement, ça devait être très difficile.
Alors humainement, oui, ça a été très difficile et il reste encore marqué par cette période. J'en ai discuté avec lui parce que dans le cadre de ce projet, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger également au téléphone avec lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est encore très marqué par cette période. Il n'a pas pardonné. Et s'il a été peu médiatisé au cours de ces dernières semaines, alors qu'on a fêté les 20 ans, que les joueurs ont été extrêmement présents, même s'il a participé à certaines manifestations, notamment au match de gala qui a eu lieu la semaine dernière, c'est vrai qu'il n'a accordé que très peu d'interviews parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, il ne souhaite pas revenir sur cette période. Parce que c'est une période avec un dénouement qui est juste fantastique, qui est magnifique. Mais c'est vrai que lui, il a vécu 4 ans extrêmement difficiles. Il faut savoir que la Coupe du Monde, ça dure 4 semaines. Elle a été belle, mais lui, son aventure, elle a duré 4 ans et demi. Alors ce qu'il a fait tenir, je ne sais pas, probablement l'amour du foot, probablement ses convictions. Parce que lui, il avait une ligne directrice, il s'y est tenu. Il savait qu'il avait entre la main une génération avec un énorme potentiel. Il le dit très tôt, hein, en 94-95. Il dit « Laissez-moi du temps, ces joueurs sont appelés à devenir des joueurs extraordinaires. On a une très belle génération, il ne faut surtout pas la griller, il ne faut pas être pressé. Laissez-nous le temps parce qu'elle va faire des miracles, cette génération. » Et il le dit 3 ans avant la Coupe du Monde. Donc ce qu'il a fait tenir probablement, c'est ses convictions et le sentiment que cette équipe de France avait un potentiel énorme.
Alors revenons à la chronologie. Donc on est à la Coupe du Monde, on démarre.
On démarre fort puisqu'on gagne contre l'Afrique du Sud 3-0. Le deuxième match contre l'Arabie Saoudite, on gagne 4-0. Et on gagne contre le Danemark 2-1. Donc on est la meilleure attaque et meilleure défense de la Coupe du Monde à l'issue de la phase de groupe.
Il y a un moment où l'équipe a, je ne parle pas du journal, l'équipe a douté d'arriver.
Non. Les semaines qui précèdent la Coupe du Monde, les joueurs sont interviewés et ils manifestent une confiance qui est inébranlable. C'est-à-dire, ils expliquent des choses qui sont évidentes, seulement les journalistes n'ont pas voulu les voir. Les choses évidentes, c'est que lorsqu'on regarde sur le papier la composition de l'équipe de France, la plupart de ces joueurs jouent dans les plus grands clubs européens. Chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent parce que c'est l'arrêt Bosman, etc. Et donc les joueurs commencent à partir à l'étranger. À l'époque, dans les années 80, il n'y avait que Platini qui jouait à l'étranger. Puis ensuite, il y a eu Papin, il y a eu Cantona. Mais dans cette équipe, peut-être la moitié joue à l'étranger. Et quand ils jouent à l'étranger, c'est au Real Madrid, c'est à la Juventus de Turin, c'est au Milan AC. Ce sont les plus grands clubs au niveau européen. Donc ce qu'ils disent tous de manière unanime, c'est voilà, si on regarde sur le papier, on a les plus grands joueurs. Donc oui, on va faire une belle Coupe du Monde et oui, on va aller, je ne sais pas si on va aller au bout, mais on va faire au moins une demi-finale, oui.
Ouais. Et le jour de la finale, tout le monde se souvient ce qu'il faisait.
Ouais.
Ça, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a assez peu de dates, d'événements qui font que l'ensemble de la population, amateur ou non, moi qui ne suis pas amateur de foot, je me souviens très bien de cette soirée.
Ouais.
Je n'ai pas regardé le match au début, j'ai regardé à la fin.
C'est comme ça que je commence mon avant-propos du livre en disant que les plus de 30 ans se souviennent tous ce qu'ils faisaient ou où ils étaient le 12 juillet 98. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la préface, j'ai souhaité interviewer des personnalités de différents mondes, des journalistes, des chanteurs, des acteurs, et pour justement leur demander ce qu'ils faisaient le 12 juillet 98. Et j'ai notamment posé la question à Pierre Arditi, parce que ça me faisait plaisir de l'avoir dans ce livre, parce que Pierre Arditi, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde, est allé sur un plateau de télévision, dans une émission de Roger Zabel, et il a poussé un énorme coup de gueule en disant « Mais laissez Aimé Jacquet travailler, laissez ce gars qui est un honnête homme, qui fait très probablement un très bon travail, et laissez-le travailler tranquillement. On en reparlera après la Coupe du Monde, mais laissez-le travailler. » Et voilà, ce coup de gueule, il a fait le tour du monde, c'est lui qui me le raconte. Et je trouvais plutôt sympa d'avoir Pierre Arditi justement dans cette préface.
Alors pour en revenir à la presse et puis à cette relation qui est toujours un peu difficile, parce que quand les sportifs gagnent, la presse les encense, et dès qu'il y a un petit problème, ça y est, on tape dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable conflit? Parce qu'on voit l'équipe, pour en revenir à lui, mais Jérôme Bureau demande pardon à Aimé Jacquet dès le lendemain, on sait que Jacquet n'acceptera jamais, mais il y a un moment où la presse, est-ce qu'elle finit par faire amende honorable? C'est-à-dire on s'est trompé, on a été trop dur, ou alors ils se disent on a bien fait de les stimuler parce que au moins ça les a boostés.
Il y a différentes choses. Il n'y a que le journal de l'équipe qui a demandé pardon, mais parce que le journal de l'équipe était peut-être celui qui donnait le là à l'époque. Il y avait un monopole. Le monopole existe toujours aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas autant de chaînes d'information. Et c'est vrai que c'était un peu le leader d'opinion, l'équipe, sur le plan du sport et notamment sur le plan du football. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser, Aimé Jacquet le premier, que les autres rédactions avaient tendance à suivre un petit peu la ligne directrice donnée par le journal de l'équipe. Mais quoi qu'il en soit, il y a les critiques et puis il y a les attaques. C'est-à-dire que la presse, globalement, et les médias tels que la télévision ne se sont pas attaqués à Aimé Jacquet. S'il y a un journal qui s'est attaqué ouvertement à Aimé Jacquet, c'est le journal de l'équipe. C'est la raison pour laquelle le 13 juillet, dans l'édition du 13, Jérôme Bureau, effectivement, demande pardon. Et puis après, il fait plusieurs chaînes de télé, parce que forcément, les caméras sont un petit peu sur lui. On lui demande un peu des explications, etc. Et donc, lui, effectivement, il demande pardon. Il demande pardon, mais il dit, voilà, nous, on ne s'est pas trompé sur le fond. Il y avait un débat sur le fond. On n'est pas d'accord avec les options footballistiques d'Aimé Jacquet. On n'est toujours pas d'accord avec lui. Bon, là, il a gagné parce que le résultat est ce qu'il est. Donc, il n'y a plus de débat. OK, il a gagné. Mais nous, on considère qu'on ne s'est pas trompé. On a été de bonne foi dans l'analyse qu'on pouvait faire sur le plan footballistique. Après, quelques semaines après, ils vont effectivement faire amende honorable en disant bah, on est peut-être allé un petit peu fort, effectivement, sur la forme. Sur le fond, on était légitime. Sur la forme, on est allé un petit peu loin. Parce qu'en attaquant le sélectionneur, on a attaqué indirectement l'homme. Et l'homme a été blessé, la famille a été blessée. Et là, peut-être qu'on n'aurait pas dû aller si loin. C'est en ce sens-là où ils se sont excusés. Après, Aimé Jacquet, s'il a pardonné à la presse de manière générale, et pas au journal de l'équipe, c'est parce que justement, ce qu'il reproche au journal de l'équipe, ce sont c'est la désinformation, c'est le cynisme, c'est l'ironie grinçante. Il dit, voilà, on avait le droit de critiquer l'équipe de France. Il y a des matchs qui étaient sujets à critique, il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai jamais contesté le fait, j'ai jamais critiqué le fait qu'on puisse me critiquer. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est la désinformation, c'est le cynisme. Et c'est le journal L'Équipe qui, dans son esprit, a fait preuve de désinformation et qui, justement, a fait que l'équipe de France aurait pu être privée, en début de Coupe du Monde, du soutien populaire. Alors que lui considère que sans ce soutien populaire, on ne peut pas faire des grandes choses. C'est en ce sens-là qu'il n'a pas pardonné au journal
de
l'équipe.
À l'issue de cette Coupe du Monde, il y a eu ce passage sur les Champs-Élysées extraordinaire. On a parlé d'une France black blanc beurre. Il y a un je ne sais plus lequel, mais il y a une des personnes interviewées qui revient là-dessus en disant « On a mis ça en avant et regardez où on en est aujourd'hui. » Il y a un côté politique aussi. L'équipe de France, elle fait partie. Les hommes politiques ont récupéré, je dirais tout le monde a récupéré ce magnifique cadeau que nous a fait l'équipe de France.
C'est une réalité, ce black blanc beurre, c'est une réalité parce que l'équipe de France était composée de black blanc beurre. Déjà, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est qu'effectivement, dans les rues, il n'y avait plus de distinction de couleur, de classe sociale. Ce qu'on voyait sur les Champs-Élysées ou même dans les petits villages ou dans toutes les villes de France, le 12 juillet au soir, voire même le 13 juillet, c'était la France qui était dehors et donc c'était une réalité. Après, que cette réalité n'a pas perduré, ça c'est autre chose.
Alors il y a aussi une phrase que j'ai notée de Jean-Bernard Hébé, qui lui aussi se souvient de ce qu'il faisait ce 12 juillet, où il paraphrase Karl Marx en disant « Le football, c'est comme la religion, c'est l'opium du peuple ». Je trouvais cette phrase à la fois belle, mais à la fois aussi assez violente.
C'est ce que dit également Pierre Arditi dans la préface. Il dit « C'est magnifique ce qu'ils ont fait, réussir à mettre... Tout un pays dans la rue, et ils se demandent si finalement c'est bien ou pas bien, parce que des hommes politiques n'arrivent pas à faire ce que des joueurs arrivent à faire avec un ballon au pied. Ils se demandent si finalement c'est positif et si on doit se réjouir de tout ça. Il dit ça avec beaucoup d'humour, hein, bien entendu, mais effectivement c'est un petit peu ça. Il faut savoir que ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées le 12 juillet au soir, d'après ce qu'on peut lire, d'après ce que disent les historiens sur le sujet, ça n'était pas arrivé depuis la Libération. Et c'est pas le même événement pourtant historique. C'est pas la même dimension.
20 ans après, c'est un peu un titre à la Dumas, 20 ans après, qu'est-ce que vous voulez retenir, vous, de...
Ce que je retiens, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là, c'est que, et on le voit encore aujourd'hui dans tous les hommages qui sont réalisés, les documentaires qu'on voit à la télévision, on voit la Coupe du Monde, on voit 4 semaines de bonheur avec cet engouement progressif du public, des supporters. On voit beaucoup d'images du 12 juillet, du 13 juillet, ces gens qui sont heureux, etc. Et on oublie presque l'autre réalité, c'est que avant cette Coupe du Monde, il y a 4 ans et demi de boulot d'une équipe qui a dû être reconstruite. Ça a été un peu compliqué, parfois laborieux. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites, des attaques qui ont été dirigées contre un homme qui les a très mal vécues, qui fait qu'aujourd'hui il est encore marqué et qu'il n'a pas pardonné. Et voilà, c'est qu'on oublie peut-être, on met l'accent sur les choses qui sont belles et on oublie les choses qui ont été un petit peu plus douloureuses. Et ce serait bien qu'on mette un peu plus l'accent justement sur les 4 ans qui précèdent, parce que bien sûr que le résultat est beau, mais il y a aussi les routes qui sont belles et cette route-là, elle a été magnifique. Elle l'est d'autant plus que le dénouement est extraordinaire et qu'ils ont été, un petit peu malmenés, à la fois par la presse et par l'opinion publique. Et ce qu'on retient, c'est ce retournement. Moi, je me rappelle, en début de Coupe du Monde, c'était un petit peu compliqué lorsqu'on rencontrait des gens, quand on était dans le cadre d'un dîner ou dans le cadre d'une soirée, de dire qu'on était supporter de l'équipe de France et qu'on croyait en eux. C'était un petit peu politiquement correct de ricaner de l'équipe de France. C'est ça qu'on retient. Et malgré ce contexte un peu défavorable, on voit que les gens, sur un coup de pied de génie de Laurent Blanc dans la surface de réparation, sur un but en or, eh ben l'équipe le public et les supporters sont capables quelque part de retourner un petit peu leur veste et de supporter comme jamais ils n'ont supporté ensuite une équipe de France.
Voilà, je vous invite à revivre l'histoire de cette équipe, la Coupe du Monde 98, l'histoire d'une équipe seule contre tous, et vous comprendrez pourquoi, bien sûr, mais vous le savez sans doute déjà à travers ce livre et qui reprend, je dirais, la genèse, puisqu'on repart 4 ans en arrière et comment cette équipe s'est constituée jusqu'à ce 12 juillet 98 qui a embrasé la France tout entière autour du ballon rond. Merci Alexandre Fievé, et c'est publié aux éditions Amphora.
Merci à vous.